Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Bistro Vélo, un numéro avec un invité exceptionnel qui nous rejoindra dans quelques instants. Vous le savez, c'est votre émission, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live Facebook Eurosport ou sur le site eurosport.fr, on en posera quelques-unes à notre invité. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Le pavé dans la peau, et oui, on parlera pavé, la Belgique, la France, le nord de la France, équipier de luxe, leader. Et maintenant, on fera le point également avec notre invité, enfin l'enfant de Cambrai. Qui d'autre que le plus belge des Français pour nous accompagner aujourd'hui? Bienvenue Florian Sénéchal, comment ça va?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Ça se passe bien, on a vu cette campagne de Flandrienne qui s'est terminée. J'imagine que maintenant, on est un peu plus dans un mode coupure pour préparer les futures échéances cette saison.
Oui, en ce moment, c'est un peu plus zen au niveau calendrier, moins de stress, les classiques sont passés. Mon programme de course est assez léger, donc ça va, j'ai repris l'entraînement tout doucement et j'essaie de voir au plus la famille pour ensuite me préparer pour la fin de saison.
On le disait, Florian, dans l'introduction, le plus belge des Français. Tu habites en Belgique à l'année, tu appartiens à une formation belge, la Deceuninck Quick-Step, et tu aimes ces pavés belges. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de ton début de saison? Tu as eu beaucoup de places d'honneur, beaucoup d'accessites, de très hautes volées sur des grosses classiques, mais tu n'as pas réussi à, comme on dirait dans le jargon, à la mettre au fond, à gagner cette fameuse victoire cette année.
Oui, je suis passé loin, de pas mal de fois, toujours dans le coup, mais bon, ça ne m'a pas souri. Donc je suis satisfait de ma condition, mais pas à 100%, hein, bien entendu, j'aurais aimé gagner. Après, la saison n'est pas finie, donc maintenant j'ai d'autres objectifs et je reste focalisé sur certaines courses et je pense déjà à ma préparation.
On l'a vu, deuxième sur des grandes classiques cette saison, Gent Wevelgem, le Grand Prix E3, ça s'est très bien passé. Il t'a manqué un petit quelque chose quand tu regardes comme ça, après coup, justement, ces courses, tu te dis j'ai tout donné ou qu'est-ce qui manque? C'est peut-être le facteur chance également?
Bah, tout dépend. Quand j'ai fini deuxième de Grand Level Game, je suis tombé sur plus fort que moi. Hein. Donc là, je savais que voilà, j'étais le deuxième et je suis tombé sur plus rapide que moi. Après, à Rulbeck, E3, c'est mon coéquipier Kasper Asbjørn qui gagne. Il est le premier à attaquer et moi et Stibor, on était là pour bloquer Van Der Poel, Nassen, Van Barl et Van Avermaet. Et peut-être que s'ils auraient bouché le trou avec Casper et que ce serait fini au sprint, j'aurais gagné, car j'avais vraiment des bonnes jambes. Donc là, c'est plus ou moins le facteur chance. Mais après, voilà, dans ces courses-là, c'est toujours aussi le plus fort qui gagne. Donc voilà, si je suis deuxième, c'est que j'ai été le deuxième. Et quand je serai premier, c'est que je devais être premier. C'est comme ça. Il y a pas de, c'est là où du plus fort. Il n'y a pas trop de chance ni autre. Donc, mais après, je me dis que pourquoi pas en fin de saison en décrocher une belle.
Il reste encore du temps. Vous êtes très nombreux hein, sur le live Facebook. Bonjour à Jean-Luc Cornet, Antoine Poetzala qui est là. Beaucoup de questions, tu peux l'imaginer, Florian, concernant Paris-Roubaix. On le sait, c'est la classique qui te fait rêver. Tu l'as d'ailleurs remportée dans les catégories juniors. C'était en 2011. Et cette année, elle aurait déjà dû avoir lieu. Elle a été repoussée pour le moment au début du mois d'octobre, au 3 octobre. On a vu hein, sur les réseaux sociaux, tu as été assez virulent concernant cette décision. Après coup, tu la digères toujours mal, ce report?
Bah, en fait, on m'a posé la même question il y a quelques jours.
Ouais.
Et bon, quand je regarde un peu les chiffres de la crise sanitaire ces dernières semaines, je me dis que c'était peut-être pas une mauvaise idée de pas organiser une course de vélo comme Paris-Roubaix, qui est assez dangereuse pour les coureurs, qui a beaucoup de chutes. Et qui risque d'envoyer 5-6 coureurs à l'hôpital de Valenciennes ou de la région lilloise, des hôpitaux qui sont saturés.
Oui.
Donc je me dis, bon, allez, je peux comprendre. Moi, j'ai eu du mal à accepter l'annulation de l'année passée parce que, alors, l'année dernière, je pense que c'était vraiment dommage et incompréhensible de l'avoir annulé alors que toutes les classiques se sont bien déroulées en septembre. On n'était pas encore dans une vague, dans la deuxième vague de novembre, décembre. Mmh. On était début octobre, ok, l'épidémie montait, mais les hôpitaux n'étaient pas full. La région des Hauts-de-France, c'était correct au niveau des chiffres. Donc là, je n'ai pas compris. Donc moi, je suis plus déçu de l'annulation de l'an passé. Cette année, je comprends plus quand je regarde les chiffres au niveau des hôpitaux des Hauts-de-France qui étaient vraiment à cette saturation, donc Je me dis que ça aurait été bête d'envoyer peut-être 4, 5 coureurs. C'est pas beaucoup, 5 coureurs, mais envoyer 5 coureurs à l'hôpital alors qu'ils sont déjà full, full, full. Donc,
Ouais, c'était surtout ça, hein, au niveau de la préfecture qui posait souci. C'était pas forcément d'organiser une course de vélo en soi. C'était les risques de chute, on les connaît sur Paris-Roubaix, et d'envoyer, tu l'as dit très justement, des coureurs à l'hôpital, dans des hôpitaux déjà surchargés. On imagine que début du mois d'octobre, c'est ton objectif de fin de saison, ton objectif de la saison tout court Paris-Roubaix.
Oui, bah, j'avais déjà les championnats du monde dans le coin de ma tête, pardon.
Ouais.
Et là, une semaine après les mondiaux, il y a Paris-Roubaix. Donc, je me dis, ça va être 2 semaines très, très importantes pour moi. Et du coup, ça m'a motivé vraiment pour cette période-là de l'année. Et donc, j'ai dit, on arrête, on pense pas au Tour de France. On va se focaliser sur le Tour d'Espagne. Et ensuite, après le Tour d'Espagne, avec les effets des 3 semaines de course, j'espère vraiment être à 100%, 110% sur les championnats du monde et sur Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est vraiment deux belles occasions de faire quelque chose de grand. Et voilà, je vais mettre toutes mes chances de mon côté.
Justement, les championnats du monde, tu en parles, ils auront lieu en Belgique au mois de septembre, du côté d'une province que tu connais bien, la Flandre. Et il y a de nombreuses questions, notamment Maël qui nous demande, ces championnats du monde dans des endroits que tu connais bien, tu as envie d'y participer, tu nous en parles, ça veut dire que tu as peut-être eu quelques échos du côté du sélectionneur national, Thomas Vauclair?
Oui, j'ai beaucoup parlé avec Thomas, on échange beaucoup avec lui, et je lui ai dit que voilà, moi c'était mon gros objectif, que j'allais faire la Volta, que ça allait m'affûter, que ça allait vraiment me préparer pour les mondiaux, donc il pouvait me faire confiance. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver, si j'ai mes formes, si j'ai un surentraînement, on ne sait pas, si je suis fatigué de ma saison, on ne sait pas, peut-être que je n'aurai pas la condition, et dans ce cas-là, je ne ferai pas la championnat du monde, mais normalement, tout devrait bien se passer, et c'est un circuit qui me va. Et puis avec Julien, avec Anthony Turgis ou Christophe Laporte, on peut avoir vraiment un très gros collectif. Et c'est assez intéressant, hein. On ne sera pas isolé, on sera vraiment une grosse équipe, une équipe importante, l'équipe de France pour les mondiaux. Donc voilà, on parle beaucoup avec Thomas,
Il y
il va
aura un
avoir des
titre à
rôles
défendre.
prévus. Voilà, un titre à défendre. Et donc voilà, on aura une belle équipe. Donc ça, tout, je pense qu'on peut faire quelque chose de beau.
Quelque chose de beau avec donc le maillot de Julien Alaphilippe à défendre, effectivement. Question de Tommy, Rémi et Julien ont gagné dans ton équipe les deux autres Frenchies de la Deceuninck Quick-Step. Et oui, Rémi Cavagna qui a remporté sa première victoire de la saison, c'était hier, on l'avait vécu d'ailleurs sur Eurosport, sur le Tour de Romandie, il a remporté le contre-la-montre. Ça te met un peu de pression ou pas du tout?
Bah, Rémi, il est comme moi, il a fait 2 fois 2e, il me semble, cette année. Donc c'est normal, comme moi, 2 fois 2e, 1 fois 3e. Donc c'est normal qu'il gagne. C'est l'un des meilleurs maintenant dans cette discipline-là du contre-la-montre. Il a vraiment, vraiment bien préparé cette discipline-là cette année, des tests posturaux, des entraînements spécifiques. Donc pour moi, c'est avec la force qu'il a et le talent qu'il a, pour moi, c'est normal qu'il gagne. Je suis très, très, très heureux pour lui. J'ai envoyé un message hier. Vraiment content parce qu'il le mérite et c'est un mec super. Et ah oui, maintenant, il ne reste plus que moi et j'espère vraiment en gagner une belle, mais il y a encore pas mal de courses, hein, donc je me fais pas de soucis.
Je voulais avoir ton avis, Florian, toi qui as l'habitude, tu habites en Belgique, tu as l'habitude de courir dans ces grandes classiques, ces semi-classiques belges tout au long de la saison. Tu connais surtout la ferveur du public en Belgique sur le Ronde van Vlaanderen, sur les courses très importantes comme le Grand Prix E3. Qu'est-ce que ça fait quand on est coureur cycliste professionnel, quand on aime ces classiques, d'évoluer sans public, sans cette ferveur?
Oui, bah, j'ai fait plusieurs fois le Tour des Flandres. J'ai fait des éditions avec un monde fou et c'était super. Et les 2 dernières éditions, c'était à huis clos. Et j'étais dans le final et il n'y avait personne dans le Quarmont. Donc c'est vrai que j'ai senti qu'il manquait quelque chose sans les spectateurs. Le Quarmont sans spectateurs, c'est pas pareil, même le Patersberg. Donc il manque quelque chose. Hein. Il manque une petite magie, on va dire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que. Voilà, et même si des fois il y a un peu trop de foule, on ne peut plus accéder au bus ni au départ, bah, c'est les supporters, enfin, c'est ça qui fait vivre le sport en général, même pour le football, on le voit hein, quand on regarde un match de foot maintenant, on entend les coureurs siffler, les joueurs siffler, limite, c'est pas terrible à regarder. Et voilà, on sait maintenant que notre sport ne peut pas vivre sans supporters. Donc voilà, je pense qu'on va réapprécier le moment où. Il y aura des masses de public au bord des routes et on va revivre et encore plus apprécié notre sport.
Il y a un amoureux sur le live Facebook Eurosport des courses belges, également un Jürgen que l'on salue, qui nous demande, il n'y a plus de public, mais est-ce que ça sent encore au moins la frite sur le bord de la route?
Même pas.
Même pas.
Même pas.
Comment
même
ça
pas.
Se fait? Il n'y en a plus.
Bah, ils ne vont pas ouvrir les friteries s'il n'y a pas de public. Hein, et je ne pense pas qu'ils ont le droit en plus. Donc,
oui, c'est vrai.
Non, même pas. Même pas.
Ok, très bien. Les championnats du monde, on en a parlé. Il y a Doumé qui nous parle, le nom qui revient souvent. Mark Cavendish. C'est vrai que Mark Cavendish, il a rejoint ta formation, la Deceuninck Quick-Step, cette année. C'est le renouveau de Mark Cavendish, vainqueur à 4 reprises sur le Tour de Turquie. Et toi, Florian, tu as eu l'occasion d'évoluer avec lui en début de saison sur certaines semi-classiques belges. Qu'est-ce que ça fait de courir avec Mark Cavendish, la légende?
Oui, mais je suis impressionné par son mental, Marc. Il a un mental incroyable et cet hiver, il était motivé, il s'entraînait vraiment bien. Il ne baissait pas les bras, il voulait vraiment prouver qu'il n'était pas pré-retraite, comme
pas
on
fini,
dit.
Ouais.
Oui, voilà. Et je lui ai envoyé un message après sa première victoire au Tour de Turquie en disant que c'était un bel exemple pour le sport en général, pour les gens qui ont des mauvais moments, comme lui, il a eu. Et que quand tu as le mental, tu peux arriver à tout et tu peux revenir. Donc, chapeau à lui. Il donne une belle image de l'équipe, de lui et du cyclisme et du sport en général. Donc, chapeau et ça fait du bien de voir ça.
Beaucoup de supporters hein, qui te suivent, beaucoup de Belges. Laurent Stavot, bonjour d'Avignon également. Vous êtes un petit peu de partout à regarder Florent Sénéchal que l'on surnomme l'animal. Est-ce que tu l'as gardé ce surnom ou tu l'as un petit peu perdu? C'était un surnom qui te collait à la peau dans tes jeunes années, ça?
En fait, je ne sais pas pourquoi, c'est des Belges, des Flamands qui m'ont donné ce surnom-là. Ils m'ont dit, avec l'accent, tu roules comme un animal. Parce que quand on était jeunes, allez, on ne calculait pas trop, j'attaquais, je roulais. Et puis après, c'est resté comme ça, l'animal. Et du coup, c'est un petit surnom qui traîne derrière moi. Et bon, ça fait bizarre, mais bon, chaque coureur a un surnom. Et bon, moi, c'est l'animal. Et souvent, tu ne le choisis pas, mais... Ça va, c'est pas non plus. C'est bien, je trouve, comme surnom, mais. Donc, ouais.
Il y a pire, hein, rassure-toi, il y a pire.
Il y a pire, comme il y a moins bien. Enfin, pour moi, ça va, l'animal, ça me fait. Pour moi, je le prends bien, donc ça va.
Ok, très bien. Énormément de questions également. On parle des Flandriennes. Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, forcément, ça intéresse les gens qui suivent le cyclisme et qui suivent d'autant plus les Flandriennes. Tu as couru avec les deux cette saison, tu t'es battu avec eux pour aller remporter de hautes victoires. Qui t'impressionne le plus entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, les deux extraterrestres qui dominent désormais les classiques flandriennes?
Quand on regarde les coureurs, on a l'impression que c'est vraiment deux mêmes styles, mais en fait, non, pas du tout. Wout Van Aert, on sent que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est très professionnel quand on voit qu'il est polyvalent sur le contre-la-montre, sur les sprints, ouais. Même en montagne et sur les classiques. Donc, c'est quelqu'un qui est très sérieux et très calme et qui est très professionnel. Tandis que Mathieu Van Der Poel, c'est plus le talent, je pense, et qui fait du vélo par plaisir et donc qui ne se prend pas trop la tête. Il fait même de la motocross dans ses journées de repos. Donc, pour un coureur cycliste, c'est assez rare. Et bon, pour moi, je dirais plus Mathieu Van Der Poel qui m'impressionne le plus, même si Wout Van Aert est impressionnant, quoi. Quand Wout Van Aert a des bonnes jambes, il est presque imbattable parce qu'il peut rouler, il peut sprinter. Et il a aussi une bonne équipe à ses côtés. Donc, c'est difficile à choisir, mais je dirais plus Mathieu Van Der Poel pour le talent et le style.
Justement, j'aimerais bien savoir ce qui se disait le matin dans le bus de Deceuninck Quick-Step autour du directeur sportif quand on arrivait sur ces grandes classiques, sur un Tour des Flandres, quand on avait Julien Lafilippe dans l'équipe, quand on t'avait toi, Florian Sénéchal. Qu'est-ce qu'on disait sur Mathieu Van Der Poel ou Van Aert? C'était vraiment des coureurs à pointer? Il y avait un discours particulier de la part du directeur sportif concernant ces coureurs ou alors on les englobait dans le reste?
Oui, on les englobait dans le reste. C'est sûr, on prêtait attention et... Mais après, on s'est dit, on doit faire notre course. On ne doit pas juger notre course par rapport à ces deux leaders-là. On doit faire notre course et c'est eux qui doivent s'adapter à notre course. Donc, on doit toujours avoir une carte d'avance sur eux. Et c'est ce qu'on a su faire sur le Tour des Flandres et aussi sur un Rollback. On a joué sur notre collectif. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et ça a marché. Et donc, non, on calcule pas de ce qu'eux vont faire. On fait notre course. On met toutes les chances de nos côtés. Et si on perd, on perd. On peut analyser nos erreurs. Si on gagne, ben voilà, c'est tout bénef, comme on dit. Donc, si on commence à dire, bon, on attend ce que Mathieu fait, ou ce que Wout van Aert fait, on gagne pas de course, c'est sûr.
C'est plus compliqué. Tu parlais de ta formation là, d'un Quickstep. Ça va nous amener à cette deuxième partie, équipier de luxe, leader. Et maintenant, c'est vrai que tu as beaucoup fait parler pendant cette campagne de Flandrienne, Florence Sénéchal. Alors, il y avait ceux qui disaient Florence Sénéchal est un leader, il doit avoir une équipe à son service. D'autres qui étaient plus partisans, englobés dans ce gros collectif qu'est la Deceuninck Quickstep, il a plus de chances de remporter ces grandes classiques. Et il y a beaucoup de questions qui arrivent, notamment de Ludovic sur le live Facebook Eurosport. Tu arrives en fin de contrat du côté de la Deceuninck Quickstep cette année. Est-ce que tu as été approché par d'autres équipes ou est-ce que tu aurais des envies de départ ou alors tu te sens peut-être très bien chez Patrick Lefebvre et la Deceuninck Quickstep?
Je me sens vraiment très bien dans cette équipe. C'est une équipe que je voulais intégrer quand j'étais tout jeune. Et c'est une équipe incroyable avec un staff incroyable, des coureurs incroyables.
Le Wolfpack.
Voilà, il y a un esprit d'équipe incroyable. Après, c'est vrai que des fois, j'ai pas eu toutes mes chances de mon côté, mais bon, l'équipe a tellement de leaders aussi. J'ai aussi une histoire avec certains coureurs. Je m'entends super bien avec Julien. Aussi mon histoire avec Fabio. Donc c'est pardon, ouais, bouge de là toi.
Et, c'est le chat.
Ouais, c'est le chat. Et mais voilà, après, ouais, y a d'autres équipes qui sont venues, pas mal d'équipes même, et aussi de grandes équipes pour le Tour qui me proposent de belles choses. J'en parle avec mon manager, j'en parle aussi avec Patrick. Voilà, j'ai pas mal d'options et pour l'instant, nos stress, on va voir. Je me sens super bien dans mon équipe, donc on va voir ce que va me proposer Patrick, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème.
À l'heure actuelle, ça veut dire qu'en ce début mai, tu n'as pas encore pris de décision concernant sur ton avenir, sur quant à ta prochaine destination, ou alors peut-être la Deceuninck Quickstep. Tu n'es pas encore arrêté, tu ne sais pas dans quelle équipe tu courras en 2022.
Non, je ne le sais pas encore. Après, j'ai vraiment de très belles options et je suis dans une bonne équipe, je me sens très bien. Donc, comme on dit, j'ai un problème de riche. Donc ça va. Donc il y a 4 ans, je m'aurais jamais. Si on retourne 4 ans en arrière, j'aurais jamais pensé avoir les opportunités et les options que j'ai là maintenant. Donc je suis assez content et heureux d'avoir ce problème de riche. Mais voilà, après il va falloir prendre la bonne décision. Mais dans tous les cas, ça sera une bonne décision, j'en suis sûr.
Justement, tu parlais de ton manager, Patrick Lefebvre. Question de Maël Denier. Quelle est ta relation, justement, avec Patrick Lefebvre? On le rappelle, tu étais passé dans les catégories jeunes en 2013 dans l'équipe réserve, l'équipe de formation de la Deceuninck Quickstep à l'époque, avec Julien Alaphilippe. Tu es parti ensuite du côté de la formation Cofidis pour mieux revenir chez Patrick Lefebvre. Il y a un lien indéfectible entre toi et ton manager?
Oui, c'est vraiment un très bon manager. Je pense que c'est peut-être le meilleur qui existe pour maintenant. J'arrive vraiment à bien parler avec lui et on sent aussi quand il y a quelque chose qui l'énerve, il va te le dire, il ne va pas tourner autour du pot. C'est quelqu'un de très honnête. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il reste dans le milieu et c'est pour ça aussi que son équipe a beaucoup de respect pour lui et c'est pour ça aussi que son équipe, ça fait 20 ans qu'elle règne sur les classiques et que maintenant elle est première au classement World Tour depuis 3 ans. Voilà, il s'est trouvé les sponsors et voilà, il sait aussi respecter ses sponsors, respecter ses coureurs, respecter son staff. Donc c'est quelqu'un qui adore le vélo, qui adore son métier, qui adore ses coureurs, mais aussi qui pousse une gueulante quand ça ne va pas et qui sait prendre des décisions et qui un vrai patron, mais pas non plus très strict, mais strict quand il faut. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup. Il est même venu à mon mariage. Et je sais que je m'entendrai toujours avec lui, quoi qu'il arrive.
On parlait de la domination, tu en parlais, de la domination de la Deceuninck Quickstep. Cette saison, 21 succès. 21 succès, vous dominez le classement World Tour. Quel est le secret, la potion magique chez la Deceuninck Quickstep?
Pour moi, si je dois dire le secret, ce serait qu'il y a une concurrence interne dans l'équipe.
Mmh, une émulation.
On sait que, on sait que si, allez, il y a tellement de leaders que même les leaders ne peuvent pas se reposer sur leur laurier parce que, voilà, ils peuvent être mis hors course ou pas, voilà, être mis hors jeu. Donc, ce qui fait que tout le monde se donne à fond parce qu'on sait que si tu fais les choses à moitié, ben, tu vas pas faire les courses que tu veux et tu vas rouler dès le départ. Voilà, tu vas devoir être coéquipier tout le temps. Ce qui fait que voilà, les stages d'entraînement, tout le monde est à fond, tout le monde se donne à fond, ça s'entraîne à 100%. Et même moi, j'ai toujours une pression de me dire, je vais peut-être pas faire cette course-là. Dans le front des classiques, on est 7, il y a 5 coureurs qui peuvent gagner la course. Donc
C'est vrai.
on se dit que je dois être à 100%, parce que si je suis à 90%, bah, on va me dire, bah, Florian, t'étais pas bien la semaine dernière, bon, bah, tu vas rouler à tel endroit. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, on a toujours une pression pour dire, je dois être à 100%, sinon j'aurais pas mes chances. Ce qui fait que tout le monde marche, en fait. Et c'est un peu dur à comprendre des fois, mais c'est ce qui fait la recette de toutes ces victoires et la recette voilà, de la performance. Tout le monde se donne à fond à l'entraînement, en course. Il n'y a jamais une course où on se dit, bon, je prends le départ et on verra ce qui va se passer. Chaque coureur dans l'équipe a son rôle à faire et chaque coureur se donne à fond. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on réussit et qu'on prend du plaisir sur les courses.
Ça vous pousse à vous dépasser. Jean-Luc Cornet qui te demande sur le Tour cette année, hein, tu l'as dit, ton programme, ça passera plus par la Vuelta. Justement, en parlant du Tour de France, ta dernière participation, c'était en 2017. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque à toi?
Oui, le Tour de France, ça me manque. Hein,
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Cette année, j'aurais bien aimé le faire, pardon, mais voilà. On ne peut pas tout faire, malheureusement. J'ai beaucoup donné en début de saison. Et là, je sens que j'ai besoin de me poser. Et je ne me sens pas capable de repartir dans une semaine en stage en altitude, ensuite enchaîner Dauphiné au Tour de Suisse et Tour de France. Et après, encore des courses jusqu'au championnat du monde. Fin septembre, je sais que j'en suis incapable. Donc, il faut prendre des décisions. J'en ai parlé avec mon entraîneur. Mon entraîneur m'a dit, Florian, tu as plus de chances d'être champion du monde que de gagner une étape sur le Tour de France. Je dis, ouais, c'est vrai, il me dit parce que y a Sam Bennett, donc tu vas devoir l'emmener pour les sprints. Et après, il y a Julien, donc tu vas devoir l'aider sur des étapes assez accidentées. Donc si tu penses à toi, autant miser la Vuelta où t'auras des chances de gagner une étape. Et ensuite, les championnats du monde, ça c'est la meilleure préparation possible. Donc je préfère faire ma saison en trois grosses parties et le milieu de la saison, le faire. Sans stress, on va dire. Donc, ouais, le Tour de France, ça me manque. Cette année, je voulais le faire. Et puis, en fin de compte, quand j'ai vu les championnats du monde, je me suis dit, non, 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 je préfère faire les championnats du monde à 100%. Donc, j'espère que l'année prochaine, tout pourra coller pour que je le fasse. Parce que vraiment, ça me manque. C'est une course incroyable. OK, le Giro, c'est beau. OK, la Vuelta, c'est sans stress, c'est sympa. Mais le Tour, c'est quelque chose
Ça reste le tour.
d'inexplicable. Ça reste le Tour, l'arrivée sur les champs, le public. Tout l'organisation, le stress qu'apporte cette course, c'est quelque chose que je veux vivre et que j'ai jamais vécu avec Quick-Step et je veux vraiment le faire. Donc, mais comme je vous dis, on peut pas tout faire malheureusement. Donc, pas cette année, mais voilà, je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans, je peux encore en faire pas mal de Tour de France.
On sent justement que quand on parle du Tour de France, ça reste quelque chose qui a déjà participé, qui te tient particulièrement à cœur, forcément. Il y a un coureur dans cette équipe, on est obligé d'en parler, c'est ton compère. Vous étiez ensemble, on le disait, dans cette équipe réserve à l'époque de la Deceuninck Quick-Step, dès les années 2013. C'est Julien Alaphilippe, vous êtes trois Français dans cette formation en compagnie de Rémi Cavagna. Et Julien, cette année, il a un maillot de champion du monde sur les épaules. Et il a, un petit peu comme toi, Florian, les ambitions dans les Flandriennes, notamment sur le Tour des Flandres. Comment on vit cette cohabitation? Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ta relation avec Julien, toi qui le connais depuis tellement longtemps.
Bah, Julien, c'est un mec super, hein, toujours agréable à vivre, souriant, à vouloir déconner et qui sait se mettre la pression quand il faut. Mais sinon, en dehors de ça, il veut. Allez, il veut. Des fois, il me dit, bon, on arrête de parler vélo, on parle d'autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour et je suis impressionné par son sang-froid et son assurance quand il dit, bon. Ah, cette course-là, je pense pas que je serais bien, mais bon, il y a encore les flèches, la flèche wallonne, Liège, tout ça, et on verra. Et puis, à la flèche wallonne, il gagne, il a failli gagner Liège. Donc, ouais, c'est quelqu'un, c'est un bon exemple dans l'équipe pour relativiser le plus possible quand on a des coureurs qui ont trop de stress ou qui n'arrivent pas à gérer le stress, l'entraînement, les courses, la pression. Quand on le regarde, lui, il faut prendre un exemple sur lui, sur comment voir les choses, comment relativiser. Et je pense pour les jeunes, c'est bien.
Toi qui le côtoies au quotidien, Florian, depuis de nombreuses années, Julien, est-ce que tu as une anecdote sur lui à raconter, peut-être en course ou avant course, justement, tu dis que c'est quelqu'un de très relax, on l'a vu sur de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, et vraiment très relax dans la vie de tous les jours. Je suis persuadé que tu as un petit quelque chose en tête quand tu parles de Julien Alaphilippe.
Là maintenant, je saurais pas vous dire. Ouais, je sais qu'il y a un bon déhanché pour danser dans le bus. Il est doué. Bon, des fois, il grimpe aux étagères dans le bus aussi. Donc, c'est un petit singe. Il est agile et léger. Mais non, là maintenant, je saurais pas vous dire. J'ai tellement passé de bons moments avec lui et rigolé. Et même son rire, des fois, sa blague, elle est nulle, mais son rire est marrant. Donc, je rigole de son rire plus que de sa blague. Mais ouais, c'est un bon mec, hein, et j'ai pas d'anecdote, mais je peux vous dire que j'ai bien rigolé avec lui.
Et ça se sent quand tu en parles. Il y a beaucoup de questions, Jérôme notamment, qui nous dit, tu es peut-être l'un des coureurs les plus réguliers de ce début de saison. On le disait, c'est un petit peu dans le titre, toujours placé. On a d'ailleurs préparé une petite infographie, on a travaillé hein, du côté d'Eurosport. Toujours placé, rarement vainqueur. On va voir sur ton palmarès le Saint-Main en 2019 et l'Overijse en 2020. On a calculé depuis 2012, Florian Sénéchal, c'est 77 top 10, 21 podiums. Toujours placé, mais seulement deux victoires au compteur professionnel. Est-ce que toi, tu y penses en te disant, t'as quand même, je suis passé à côté plusieurs fois?
Je me dis que je tombe toujours sur plus fort que moi, mais après il y a des courses que j'ai pas très bien gérées, hein, comme le Grand Prix de Ploué l'an passé où je devais gagner et j'ai trop attendu et je me suis fait rattraper par derrière dans le final, dans les 200 derniers mètres. Là, c'était ma faute. Oui, tu as un manque de confiance en moi peut-être. J'en parle avec un psychologue. J'essaie de travailler ça. Après, oui. J'aimerais bien trouver une solution. Je m'entraîne dur. Chaque année, j'évolue. C'est ce que j'essaie de voir depuis que je suis entré dans l'équipe. Chaque année, je suis de plus en plus fort. Je crois que je suis encore 9e au classement mondial. Donc, ça va, ça prouve ma régularité. Mais on retient plus les vainqueurs. Donc, il
C'est vrai.
faudra peut-être un jour passer la vitesse supérieure. Mais je travaille pour. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de focaliser mes objectifs de la saison et pas essayer de tout faire ou de ne pas essayer d'être en forme toute l'année, ce qui est impossible. Donc, je dois encore évoluer et j'évolue chaque année et je travaille encore plus dur chaque année. J'essaie maintenant que pour gagner des courses, faut vivre vélo tous les jours. Donc, étape par étape, on va dire.
Oui, parce que sur tous tes grands objectifs, sur toutes les Flandriennes, un top 10 sur le Tour des Flandres, un top 10 sur Paris-Roubaix, on le disait, deuxième de Gent-Wevelgem, deuxième du Grand Prix E3, septième du Het Nieuwsblad. Et c'est ce qui fait penser à certains de tes suiveurs en se disant, il lui faut une équipe complètement à son service pour justement l'aider à atteindre ses objectifs. Tu leur réponds quoi à ces gens?
Ils ont pas tort, hein. Après, quand je parle avec mon équipe, je leur fais comprendre que je suis très heureux de lancer des sprints. Ça me fait plaisir. Avec Fabio Jakobsen, j'arrête pas de dire que pour moi, ça va être le meilleur sprinter au monde. Même après son accident, je le vois à l'entraînement et je reste convaincu qu'il va revenir à 100%. Et j'adorerais le lancer et le voir gagner de nouveau. Et donc voilà. Donc peut-être que des fois, à chaque fois, ils me mettent mon Florian classique et ensuite, bulle, sprint et il doit lancer. Donc voilà, à chaque fois, c'est des occasions aussi qui partent pour lancer des sprints. Mais voilà, si je suis dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de leaders et que chaque course, on doit gagner. Donc voilà, après, c'est aussi là, le point de vue extérieur, c'est que je peux être un coéquipier de luxe, mais aussi être un leader sur les classiques. Donc on peut me mettre un peu partout, on peut me mettre sur les classiques, je peux lancer des sprints, je peux même en gagner si c'est un peu dur. Maintenant, je passe bien les bosses. J'ai fait l'Amstel et ça s'est bien passé. Et je pense que si j'ai 2 kilos en moins, je peux faire podium sur l'Amstel Gold Race. Donc voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi et je dois faire des choix pour le futur, ça je le sais. Mais je sais comment travailler maintenant et je sais encore comment m'améliorer.
Question de Freddy. Quelle est la course qui correspond le plus, qui sied le plus à tes caractéristiques?
Ça, tout le monde le sait déjà, c'est Paris-Roubaix. J'en parle beaucoup avec des amis et c'est vrai, allez, c'est Paris-Roubaix parce que physiquement, je suis un peu musclé, un peu lourd du haut du corps, ce qui me pénalise dans les montées, comme des montées raides autour des Flandres avec le Koppenberg, le Taillenberg qui s'enchaîne. Je sens que mon poids me pénalise un peu. Mais sur un Paris-Roubaix, quand toute la journée on tire sur les bras, le cou, les pectoraux, je sais que moi je suis plus à l'aise que quelqu'un qui n'a rien au du corps. Et forcément, après 50 km de pavé, à bout de 6 heures, le haut du corps lâche. Tandis que moi, après un Paris-Roubaix, j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux bras. Et donc, je sais que c'est ma course. Je sais qu'il y a un moment, quand je passe le moment sans PVL, il y a quelque chose qui se passe, qui se débloque. Et les jambes, elles me font mal, mais je peux pousser et j'ai une envie incroyable. Et j'ai aussi une plus d'assurance sur cette course-là que sur un Tour des Flandres. Donc, il y a tout qui joue, le physique, le mental. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup exprimé sur l'annulation de Paris-Roubaix parce que voilà, ça fait 2 ans qu'elle a pas lieu. Et l'année passée, j'étais en forme là où Paris-Roubaix devait se faire. Ça ne s'est pas fait. Donc, je n'ai pas su prouver ma vraie valeur, peut-être. Cette année, la même chose. Et cette année, je suis en fin de contrat. Donc, ça me fait de la peine parce que je travaille beaucoup pour ça. Et je suis toujours freiné 2 semaines avant par une annonce officielle comme quoi Paris-Roubaix est reporté, annulé. Donc bon, voilà, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, des fois, j'étais un peu cru. C'est parce que je travaille beaucoup pour cette course-là avec le matériel, avec Specialized, avec mon entraîneur, ma femme qui me suit pendant 6 heures, 7 heures sur le parcours. Et tout ça s'emballe. Et quand il y a une annonce qui arrive, pas de Paris-Roubaix, ça fait mal au cœur. Ouais. 2 fois de suite. Donc voilà, mais bon. Cette année, c'est
on
pas
se donnera rendez-vous le 3 octobre voilà. Et on verra ce qu'il advient. Il y a une question de Tina qui ne va pas faire que des heureux hein, dans l'équipe. Tu ne vas pas te faire que des copains. Tina qui nous dit, Florian, il court avec des Remco Evenepoel, des Julien Lafilippe, des Casper Asgreen, des Yves Lampaert. Qui est le plus fort?
Remco Evenepoel.
Remco? Pourquoi?
Remco. Il y a Mathieu, les Julien, les Casper, les grands sprinters, Sam Bennett, tout ce que vous voulez, mais Remco... Je l'ai vu rouler, j'ai couru avec lui autour de Pologne. Ce qu'il a fait autour de Pologne, avant qu'il tombe autour de Lombardie, c'était incroyable. C'était à 50 km de l'arrivée, il me dit « ouais, je dois attaquer ». J'ai dit « non, attaque pas, après les bosses, là, il y a 25 km de vallée, plus 3 bosses raides. Non, mais il faut faire la course ». Il avait 20 ans, il me dit ça, il le fait, tout seul, il attaque sur la vallée, tout seul. Il prend une minute dans la vallée, alors que c'était Fuglsang, Schaffmann qui tournait derrière lui. Et il finit avec 2 minutes 30 d'avance, et il avait le dossard de Fabio dans son dos. Ça veut dire qu'avant le départ, il savait qu'elle arrivait tout seul. Donc, et il le dit. Il dit, bon, là, ça va le faire. Je vais gagner. Quand il vous dit ça, alors qu'il a 20 ans, c'est un exemple. Il a l'assurance. Il a le moteur incroyable. Il s'entraîne très fort. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent s'entraîner comme lui sans avoir de grosses fatigues. C'est impressionnant. Donc pour moi, ça reste le phénomène et le coureur qui m'a le plus impressionné.
Justement, Florian, tu n'es pas sans savoir que le Tour d'Italie va débuter le 8 mai. Ce sera d'ailleurs à suivre sur Eurosport. Remco Evenepoel, dont on parle, n'a pas couru depuis sa chute sur le Tour de Lombardie l'an passé. Est-ce que pour toi, Remco Evenepoel va arriver en grande forme et est capable, allez, de remporter le prochain Tour d'Italie?
Capable de gagner un grand tour, ça, on ne peut jamais savoir. Mais moi, je pense qu'il sera présent et qu'il ne sera pas là pour dire de faire du vélo. Il sera là vraiment pour gagner des étapes et faire quelque chose de beau, j'en suis sûr. Il s'est entraîné très dur. Physiquement, je sais qu'il est à 100%, qu'il s'est bien préparé, qu'il n'a plus de problème. Donc, moi, j'ai hâte de le voir sur les routes d'Italie et je le supporte à 100%. Et je sens qu'il va faire de belles choses et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder le Giro grâce à lui.
On va suivre ça avec attention. On va passer à la troisième partie, si tu le veux bien, qu'on a intitulée tout simplement « L'enfant de Combray », toi le nordiste, l'amoureux des pavés. Plusieurs questions. Que fait Florian Sénéchal quand il n'est pas sur le vélo, à l'entraînement ou en course?
Avant, j'aimais bien avoir des amis à le restaurant. Bon, ça, on a mis ça de côté.
Un peu plus compliqué.
J'ai une grande passion pour l'automobile. Après, j'adore aller sur circuit, tout ça, mais ça a aussi un gros budget, donc je le fais quand je peux. Et l'automobile, j'adore, ça me déconnecte complètement. Cette semaine, je vais à Spa-Francorchamps, donc ça va me faire du bien. Ça fait trois ans que j'ai pas été. Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose. j'aime bien manger, comme tout le monde. Mais puis, j'aime passer des moments avec la famille et entre trois amis. Mais on peut dire que la chose qui me déconnecte vraiment de tout ça, c'est le sport auto. Et voilà, j'espère avoir un peu plus de temps par la suite pour aller voir des Grands Prix de Formule 1, par exemple.
Est-ce que tu avais un idole de jeunesse qui t'a fait peut-être venir au vélo ou peut-être dans un autre sport, un sportif que tu admirais ou alors une personne qui n'était pas sportive?
Non, bah, c'est en regardant Paris-Roubaix à la télé, quand je voyais les exploits de Tom Boonen, tout ça, qui m'ont fait rêver. Hein, ça, le duel Boonen contre Chilara, c'était quelque chose d'incroyable à voir quand on était gosse. Et moi, je pouvais voir au bord de la route et après regarder à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du vélo. Et puis bah, à l'école, j'étais vraiment, vraiment nul. Donc, je me dis, j'ai pas d'option. Soit tu fais du vélo, ça se passe bien. Soit c'est mal barré. Donc voilà, j'étais à fond quand j'étais jeune pour en faire mon métier et ma passion. Et ça a marché grâce à ça, grâce à la télé, à aller voir les courses de vélo amateurs, aller voir des courses pro comme le Grand Prix de Denain, les 4 jours de Dunkerque. Toutes ces courses-là m'ont donné envie d'en faire mon métier maintenant.
Justement, tu as anticipé, tu as mangé ma question prochaine. Si tu n'avais pas été un coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi dans la vie?
Aucune idée.
Pas professeur des écoles?
Non, ça c'est sûr.
Non
je me pose souvent la question et j'arrive jamais à trouver la réponse.
Bah, c'est que tu as choisi le bon métier.
Voilà, oui, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je suis nul en bricolage. je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Je ne saurais pas vous dire, heureusement, peut-être un autre sport, mais voilà, heureusement que
pilote automobile, peut-être ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais heureusement que, voilà, que j'ai eu mes parents, mais maintenant ma femme qui me supporte à 100% et que je n'ai pas eu de soucis pour passer pour professionnel, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que j'aurais fait et c'est un luxe et c'est une fierté de pouvoir vivre de sa passion.
Justement, on dit toujours que pour performer, quand on est sportif, il faut un équilibre familial, ce fameux cocon. Et on dit toujours que derrière un grand champion se cache une grande femme. Et je sais que c'est ce qui ça te sied particulièrement parce que tu es très proche, tu es très famille, Florian. Et surtout, on te voit avec ta compagne souvent sur les réseaux. C'est quelqu'un de très important pour toi dans ta carrière sportive.
Oui, c'est quelqu'un qui vit à 100% pour moi, alors que moi, je ne vis pas à 100% pour elle, parce que voilà, une carrière sportive, il faut faire des concessions. Et comme là, par exemple, pendant peut-être 2 mois, elle n'a vu personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne, parce qu'il y avait un risque Covid. Et je lui ai dit, tu sais, si tu vas voir tes parents qui ont vu des amis 2 jours avant, ça ne va pas le faire, parce que s'ils ont Covid, toi, tu as le Covid, tu me le donnes, je ne peux pas faire les classiques, tu connais les conséquences, c'est pas…
Ouais.
Donc, quelqu'un qui a que le Covid, qui reste 2 semaines chez lui et qui ça change rien à sa vie. Moi, si je reste 2 semaines chez moi, que je loupe les classiques, je suis en fin de contrat, il y a des conséquences. Donc, pendant 2 mois, elle a vu que moi et des fois, je partais une semaine et elle était une semaine à la maison toute seule. Donc, elle a su faire des concessions et pour ça, je respecte beaucoup ma femme parce que c'est pas facile tous les jours. Et ça fait 1 an que ça dure, qu'elle fait des concessions vraiment assez fort à cause de la crise sanitaire et c'est ce qui, et ça nous rapproche, ça, c'est ce qui crée un lien encore plus fort pour le futur.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier cycliste professionnel? La chose que tu préfères?
Être maître de son emploi du temps quand on est à la maison.
C'est pas mal ça.
Ça veut dire que je pars à l'heure que je veux et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire 6 heures de vélo, je fais 6 heures de vélo. Si j'ai envie de faire qu'une heure, je fais qu'une heure. On peut mixer aussi, donc ça c'est vraiment un luxe. Et j'apprécie beaucoup.
Et à contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier?
Tous les jours, tu, comme je disais il y a quelques minutes, tu dois vivre vélo. Donc ça veut dire que, admettons, j'ai fait 6 heures de vélo aujourd'hui, j'ai 2 kilos de trop, bah, on va essayer de ne pas trop manger le soir, donc, ce qui fait que tu en fringales complète à 22h et que le lendemain, tu ne fais pas de vélo, donc tu vas stocker, donc tu te dis, oh là là, je vais manger un yaourt, une pomme. Des légumes, et tu te dis c'est ma journée de repos et tu es fatigué parce que tu as fait un gros entraînement la veille, tu es fatigué en fringale parce que tu n'as pas assez mangé, mais tu fais le job comme on dit, et tu te dis une personne normale, sa journée de repos, elle va prendre l'apéro avec des amis, elle va faire une activité, même moi faire une marche de 1 heure alors que j'ai mangé qu'une pomme, ça me va pas. Donc je me dis ça c'est dur parce que bah, c'est tous les jours, tu dois penser à tout, au repos, au sommeil, à la nourriture, Donc, faut vivre vélo pour que ça marche. Et je l'ai compris depuis 2 ans. Donc, c'est le seul. Allez, c'est pas non plus un gros problème, mais c'est la seule chose qui est un peu dure à vivre.
Du coup, tu comprends peut-être les gens qui pensent que le sport de cycliste professionnel, le cyclisme professionnel tout court, est le sport le plus ingrat. C'est énormément de sacrifices, énormément de concessions. Tu nous en as parlé, que ce soit alimentaire ou familial, pour peut-être quelques minutes de gloire dans une saison.
Oui, c'est un sport ingrat, mais pour quand on voit tous les efforts physiques, tout ce qu'il faut faire, vraiment faire attention. Mais après, si on compare les autres sports, quand on voit la pression dans le football ou la Formule 1, et pour percer dans le football, il y en a vraiment très peu qui y arrivent. Pour percer dans la Formule 1, il y en a vraiment très, très peu qui y arrivent. Le tennis, pareil. Tandis que le vélo, on sent que voilà, il y a des équipes de 25 coureurs, et des équipes de deuxième division qui peuvent faire le Tour de France, voilà, des choses comme ça. C'est beaucoup plus ouvert, je veux dire. On a des coins négatifs, mais aussi des coins très positifs. Et enfin, là, je le sens quand même, on nous enlève l'image un peu du dopage. Ça aussi, c'est une bonne chose qu'il faut signaler parce qu'on a souffert pendant pas mal d'années. Et là, ça fait 2 ans où on nous laisse tranquille et qu'on ne met plus l'étiquette du sport de dopé, on va dire. Donc, ça évolue bien, je veux dire, dans le sens du vélo.
Et il y a une question que j'aime bien pour terminer avec notre invité. Mais je crois connaître un petit peu ta réponse. On va la tenter quand même. Ton rêve le plus fou. Si tu avais un rêve à réaliser, que ce soit dans le domaine sportif ou dans d'autres domaines, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie d'être humain, ça serait quoi ?
Après, moi, je sépare beaucoup de choses entre le sport et le domaine privé et la famille. Bien sûr, si dans le domaine sport, j'aimerais gagner Paris-Roubaix, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Ce serait l'objectif de ma vie, comme on dit. Après, voilà, avoir aussi une famille et la santé, c'est aussi très important. C'est un autre objectif qui est plus facile à atteindre, peut-être. Mais voilà, il y a plein. Et aussi pouvoir continuer à vivre d'une passion en dehors du vélo, pourquoi pas, après ma carrière. Peut-être pas forcément continuer dans le monde du vélo après ma carrière. J'aimerais percer dans autre chose quand j'aurai 40 ans, par exemple. Et ça serait aussi une fierté. Donc voilà, j'ai plusieurs options qui s'étalent devant moi. Et pour l'instant, j'ai 2 options, Paris-Roubaix et la famille. Et c'est déjà pas mal et j'espère que je vais y arriver.
Et ça risque de t'occuper dans les mois, dans les années à venir. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Florent Sénéchal, d'avoir accepté notre invitation. On te suivra sur ta reprise. Donc, tu nous as dit Critérium du Dauphiné, c'est ça ?
C'est ça, oui. Oui.
On suivra ça avec attention. Merci à toi, merci. À ta formation. Et on se dit à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Bye bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.